Stéphane Trouille par téléphone avec nous. Stéphane Trouille, tu es vidéaste indépendant calaisien. Tu collabores notamment à ce média qui s'appelle Reporter, en terre comme notre planète. Comment tu t'es impliqué d'abord, pour revenir à la base de l'histoire, dans ce mouvement des Gilets jaunes du côté de Valence?
Alors, moi, ce mouvement des Gilets jaunes, comme beaucoup de monde, au début, je l'ai regardé, je l'ai vu de loin. Ça m'a beaucoup interrogé. Et j'ai essayé de m'y intéresser par certains médias. Et puis de comprendre un peu ce qui jouait. Au début, avec une image un peu, on va dire, négative. C'est vrai que. Enfin, je voyais surtout les premières revendications sur le coût de l'essence, sur tout ça, qui sont pas forcément des choses pour lesquelles je milite ou je me bats, enfin, dans mon quotidien. Et voilà, donc petit à petit, je m'y suis de plus en plus intéressé. Et puis pour finir par franchir le cap d'aller de me rendre sur un rond-point plutôt à Cré, qui est le rond-point occupé le plus proche de mon habitation, puisque j'habite à Saillans, donc dans la Drôme. Et puis voilà, et puis j'ai commencé à passer un peu de temps sur ce rond-point, à discuter, à voir un peu ce qui se tramait, qui était là, rencontrer des gens, échanger, parler, puis me rendre compte que bah oui, ces lieux, c'était des lieux où à la base il y a des gens qui sont venus parce qu'il y a une goutte d'eau qui a fait déborder la marmite et sur des questions de, on va dire, pécuniaires, mais qui ont vite débordé et qui ont vite amené des discussions sur plein d'autres thématiques, à la fois des thématiques globales mais aussi locales. Et ça m'a beaucoup intéressé. J'ai trouvé que c'était vraiment un mouvement qui était fort et puis qui était intéressant dans le sens où on croisait, moi ce que j'ai pu croiser, des personnes que j'avais pas l'habitude de voir moi dans mon réseau et que c'était l'occasion de, oui, d'échanger, de débattre, de s'interroger ensemble, de confronter les expériences, les vies. Et du coup, je trouvais ça super intéressant parce qu'on est dans une société, je trouve, où on essaie de nous monter les uns contre les autres, on nous retire petit à petit tous ces lieux où ce lien peut se faire, où ces discussions peuvent se faire. Je pense au MJC, je pense au bar associatif, je pense à tous ces lieux comme ça qui ont du mal de par les politiques mises en place qui tapent fort à ce niveau-là et qui restreignent les subventions ou qui rendent les conditions d'existence plus difficiles. Et aussi toutes ces politiques qui font qu'on l'espace public n'est plus le nôtre et que c'est difficile d'avoir des endroits d'échange qui soient publics, on va dire, où tout un chacun peut venir. Dans cet esprit-là, je trouvais cette démarche d'occuper des ronds-points et de faire de ces lieux des lieux à la fois d'organisation, de rencontres, de visibilité, d'information. Et vraiment, je suis rentré deux pieds dedans parce que moi, dans tout ce que je fais, dans mes activités, que ce soit par la vidéo ou aussi dans mon engagement citoyen, c'est des choses. J'essaye d'amener ça, hein, que ce soit par des et avec d'autres, par des projections. Mais c'est pas évident de toucher certains milieux sociaux, certaines franges de la population. Et du coup, je trouvais ça super riche, même si c'est quelquefois, c'est pas forcément. On n'est plus habitué, en fait, je trouve, au débat, quelque part au conflit, dans le bon sens du terme. Je trouve que le conflit, c'est quelque chose qu'on essaie d'évacuer de notre société, alors qu'on en a besoin. Une démocratie, c'est aussi du conflit. En tout cas, c'est échanger des points de vue et puis écouter l'autre et puis évoluer dans son positionnement. Donc voilà, donc je trouvais ça super intéressant, même si j'ai entendu des choses qui me plaisaient pas trop, des positionnements auxquels j'adhérais pas, mais en tout cas, voilà, il y avait tous ces, y a ces lieux. Moi, j'ai plus connu donc du coup le rond-point de Cré, mais tous ces nouveaux lieux, on va dire, de démocratie. Et voilà, donc j'ai mis le pied là-dedans,
Et puis arrive cette date du
bah.
8 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là alors, Stéphane Trouille?
Alors, le 8 décembre, comme partout, il y a dans ce mouvement des Gilets jaunes, il y a à la fois les ronds-points, mais il y a aussi des choses qui sont organisées de ci, de là, des manifestations, déclarées, pas déclarées, des actions. Et là, il y avait donc du coup un appel à rassemblement pour aller communiquer et puis se rendre sur un centre commercial, un gros centre commercial à Valence, comme il peut en exister en périphérie des villes un peu partout. Et voilà, et donc je m'y suis rendu avec d'autres. Donc c'était la première fois que j'allais sur Valence, en tout cas pour dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Et donc l'idée de ce jour-là, c'était de à la fois bloquer un petit peu le centre commercial, amener de la discussion sur sur le mouvement, mais aussi sur tous ces magasins, ces enseignes, ces grosses enseignes qui pour certains et certaines sont aussi des symboles un petit peu de ce monde, avec ces grosses enseignes qui amènent des produits qui viennent d'ailleurs, qui cassent un petit peu les petits commerçants du centre-ville. Enfin voilà, il y avait l'idée de questionner là-dessus et donc de provoquer un petit peu des rencontres et puis de voilà. Donc on s'est retrouvés, on était une bonne centaine présents dès le matin, 9h sur le rassemblement. Et ça s'est bien passé le matin, donc jusqu'au midi, il y a eu des cafés, il y a eu des gens qui se sont arrêtés pour discuter. Certains qui étaient aussi mécontents de ne pas pouvoir accéder à certains parkings et d'aller faire ses courses à Conforama, GoSport ou je ne sais quelle grosse enseigne. Bon voilà, en tout cas, il y a eu des discussions. Et puis, vers midi, il y a eu une demande de la police de quitter les lieux. Ils n'acceptaient plus notre action. Et donc vers midi, ça s'est commencé à se tendre un petit peu. Puis un premier face-à-face parce que ils avaient donné l'ordre qu'on quitte les lieux, ce qui n'a pas été décidé par les Gilets jaunes présents. Très vite, deux blessés côté gilet jaune, dont un assez grièvement à la tête suite à un coup de matraque ou un tir de flashball, on ne sait pas trop. Bon voilà, suite à ça, ça s'est calmé parce qu'il y a eu ces deux blessés très rapidement. Et puis par la suite, un petit face-à-face, les forces de l'ordre sont restées sur place, mais on se regardait un petit peu de chaque côté. Et puis après il y a eu la décision de quitter les lieux. C'est en quittant les lieux où moi personnellement j'ai avec le groupe avec lequel j'étais, on a été alerté par une personne qui arrivait un petit peu paniquée en nous faisant part d'une agression dont étaient victimes des gilets jaunes non loin de là sur le parking du centre commercial. Moi et d'autres, je décide d'aller sur place. Enfin, c'était assez proche, hein, mais d'y aller. Et là, effectivement, je constate qu'il y a des gilets jaunes qui sont en train de se faire agresser et de recevoir des coups. En tout cas, il y a une opposition. Moi, ma réaction à ce moment-là, ça a été d'essayer de stopper ça et donc du coup d'agir. Physiquement pour repousser en tout cas une des personnes que moi j'ai vu tout de suite qui donnait des coups à des gilets jaunes et donc voilà dans l'idée de que ça s'arrête quoi et de faire partir cette personne. Et il y avait aussi un petit attroupement sur le côté que j'ai pas tout de suite visualisé, mais il se passait des choses, voilà. Et donc cette personne, ma réaction, ça a été de lui donner un coup de pied. C'est une scène qui se passe, c'est hyper rapide. Hein, c'est 20 secondes pour situer un petit peu la chose. Et donc j'ai agi comme ça. Et ensuite, à nouveau la personne se redonne des coups et là je retourne vers elle et puis. Je lui redonne deux coups de pied et puis c'est à ce moment-là, enfin juste un petit peu après, où je vois une personne qui sort un pistolet et donc là à ce moment-là, stupeur, je comprends assez rapidement du coup qu'il y a des policiers qui sont là et donc je décide de quitter la scène, enfin de partir de là et de voilà. Et donc je quitte les lieux dans un état un peu de stupéfaction et c'était un peu le sur place le chaos. Il y avait une trentaine de personnes, quoi, et c'était assez chaotique. Et voilà. Et donc je quitte les lieux et je repars vers Valence où il y avait une marche pour le climat.
Donc la personne que vous avez frappée avec le pied, en fait, il s'agissait d'un policier, pas n'importe quel policier en plus.
Effectivement, donc ça c'est après coup que je m'en suis rendu compte quand j'ai vu le pistolet, bien sûr. Et effectivement, donc il s'agissait de deux, en fait, au final, en tout cas en action, deux policiers en civil, dont le directeur départemental des services de police. En l'occurrence, moi, cette personne-là, je n'ai pas eu affaire à elle, puisque j'ai eu affaire à la personne qui était avec lui, qui était son chauffeur, enfin un brigadier, mais qui était son chauffeur ce jour-là. Moi, le directeur, c'est lui que j'ai vu sortir l'arme, mais moi, j'ai pas eu de confrontation directe avec lui. Mais effectivement, oui, c'est un des points importants dans l'histoire, je pense, pour comprendre aussi la lourdeur des peines qu'on a subi. Et d'ailleurs, quand j'étais en garde à vue, l'officier de police judiciaire qui m'a interrogé, une de ses premières phrases, ça a été de me dire « Oh, bah dis donc, vous avez tiré le gros lot, une des deux personnes, c'est le directeur de la police, quoi, et c'est, les infos sont montées au ministère, enfin bref. » Donc très vite, j'ai compris que oui, c'était non seulement c'était des policiers en civil, mais c'était le directeur qui était en action là, et ça pose de grandes questions, et ça a été un peu abordé au procès, c'est de se dire non seulement que faisaient deux policiers en civil tout seuls, un peu esselés dans ce parking au milieu de 100 gilets jaunes qui partaient, et d'autant plus que faisait le directeur de la police sur place, ce qui n'est pas dans ses habitudes, et ça a été confirmé par son chauffeur. C'est pas du tout des manœuvres, on va dire, habituelles, quoi. Donc il y a des questions aussi sur comprendre qu'est-ce qu'il faisait là, lui, et juste à deux. Enfin voilà, c'est une des questions un peu qu'on se pose.
On pourrait presque rigoler de cette situation, c'est vraiment, vraiment pas de chance, mais il y a une garde à vue prolongée, et puis de lourdes sanctions que vous encourez.
Ah bah oui, donc on a eu... déjà, on a été... Donc la garde à vue, dans des conditions, moi c'est la première fois que je faisais une garde à vue et aussi longue, puisqu'elle a duré 48 heures, donc effectivement des conditions pour le moins difficiles dans cette garde à vue. Et puis ensuite une comparution immédiate le lundi, que moi j'ai demandé un délai pour préparer, parce que c'est très difficile d'être jugé en ayant vu un avocat commis d'office 10 minutes avant l'audience, en ayant passé 48 heures, en n'ayant pas beaucoup dormi, en ne s'étant pas lavé. Enfin voilà, c'est des conditions qui sont assez éprouvantes. Et donc, dans ces conditions-là, passer en comparution immédiate le lundi, et on a tout à fait le droit de demander un délai. Donc, on a demandé un délai et... Et la première, enfin, on va dire deuxième choc, après la garde à vue, le tribunal qui décide de nous placer en détention jusqu'au procès, le 26 décembre. Et donc là, direction la prison, donc ça c'était aussi un choc, ouais, tout s'est enchaîné assez rapidement. Et donc 11 jours de garde à vue, de prison à la prison de Valence, avec deux des autres, puisqu'on est quatre à avoir été impliqués, à arrêter suite à la manifestation. Trois hommes et une femme, donc Maria, qui elle a été envoyée sur Lyon dans la prison des femmes, une prison de femmes, et nous trois, Tom, Dylan et moi, qui ont été envoyés à Valence. Bon, on a fait une demande de mise en liberté, comme on en a le droit, qui est passée le 20 décembre, à l'issue de laquelle on a été mis en liberté. Et puis un procès le 26 décembre à Valence où effectivement on a été lourdement condamnés tous les quatre à des peines allant de 3 mois de prison ferme à 12 mois plus du sursis plus 3 ans d'interdiction de manifester sur tout le territoire français. Que ce soit par rapport à ce dont j'ai parlé là, l'histoire de la comparution immédiate et cette histoire de peine complémentaire, En fait, on se rend compte que c'est des directives qui ont été envoyées par la ministre de la Justice spécialement pour le. Enfin, c'est une circulaire qui est visible hein, sur Internet, où on voit bien que la ministre demande au procureur non seulement de favoriser la comparution immédiate et de demander des peines complémentaires allant jusqu'à 3 ans d'interdiction de manifester. Donc ça, c'est vraiment des choses qui petit à petit s'ancrent dans la société et dans la justice, c'est-à-dire que on rajoute des peines qui empêchent les gens de s'exprimer et de rejoindre d'être dans ce mouvement, qui sont du coup reprises par les procureurs dans leurs délibérations. Et puis pour nous et le juge qui reprend quasiment mot pour mot le réquisitoire du procureur. Donc on a vraiment une musique qui est composée, on va dire, par le gouvernement et puis qui se retrouve à être appliquée par la justice. Donc de grosses questions sur la justice aussi par rapport à tout ça. Donc c'est vrai que c'était c'était un choc hein, au moment du rendu. On s'attendait vraiment pas à être frappé aussi fort.
Est-ce que vous avez des recours possibles?
Alors oui, donc on est deux, donc il y a Tom et moi qui faisons appel, et Maria qui fait appel sur la peine complémentaire des 3 ans de l'interdiction de manifester. En faisant appel, les peines sont suspendues, en attendant le nouveau procès qui a priori devra avoir lieu d'ici 6 à 9 mois.
Votre situation, elle est symptomatique de la situation politique et d'une politique répressive par rapport à ce mouvement social. Comment vous analysez un petit peu la situation dans laquelle on se trouve en France actuellement?
Je pense que il y a un vrai mouvement de fond. Je pense que le pouvoir en place s'en rend bien compte et fait tout pour contrer ça et pour garder sa place, parce qu'ils sentent bien que y a une grosse remise en question des pouvoirs et de la confiscation des pouvoirs et du fait qu'on a petit à petit on a de moins en moins de contre-pouvoirs et des gens qui se permettent de décider de la vie sociale, culturelle, économique de tout un chacun et effectivement une des stratégies c'est pour moi à la fois d'empêcher des personnes avec ces peines complémentaires de pouvoir rester dans le mouvement hein. Et puis aussi de faire peur hein, de faire taire en gros en montrant que on peut avoir des peines, on peut être emprisonné, on peut faire de la garde à vue, on peut et au-delà de ça aussi se prendre aussi des tirs de flashball des grenades et du coup vaut mieux rester chez soi quoi, restez chez vous, tout va bien, on va organiser un grand débat et ça ira comme ça donc effectivement je pense que c'est une stratégie et tout ça relayé par des médias des médias mainstream on va dire qui relaient tout ça et qui appuient là-dessus. Enfin nous on l'a bien vécu concrètement dans le traitement médiatique de notre procès, qui a été quand même, mine de rien, qui a fait du bruit, qui a été relayé sur la plupart des journaux, la plupart des télés, et on a bien vu le traitement qui en est fait, et la manière dont la parole du procureur est mise en avant, la manière dont se glissent de ci, de là, des petites phrases qui, comme ça, n'ont l'air de rien, mais qui en fait marque un positionnement. Juste un exemple, journal de France Inter le soir du procès, le 26, juste avant que le jugement soit rendu, la journaliste qui évoque le fait que les 4 accusés se sont excusés. Une phrase qui comme ça n'a l'air de rien, mais en fait, c'est dit juste comme ça, ça peut laisser penser que les 4 accusés reconnaissent ce pourquoi ils sont accusés. Et ce qui n'est pas le cas. Moi et 2 autres, ce qu'on dit, c'est que oui, effectivement, on a fait preuve de violence quelque part, mais absolument pas contre des personnes dépositaires de leur public, puisqu'elles étaient absolument pas identifiables. Elles avaient une espèce de mini brassard qui était pour l'un sur l'arrière du coude et pour l'autre en bas de son bras droit de couleur orange fluo. Mais ça, même avec la vidéo, puisque la pièce principale de l'accusation, c'est une vidéo de surveillance du parking, et on l'a bien montré au procès, qu'on ne voyait pas sur tout le temps et on voyait rarement ce brassard, qui en fait n'en était même pas un, ça c'était juste... Il y a des moments où on voit une couleur orange apparaître, quoi. Voilà. Et avec ça, c'est avec ça qu'ils interviennent. Ils n'ont jamais, ils se sont jamais présentés ou ils n'ont jamais dit par oral qu'ils étaient de la police. Donc nous, on conteste ça. Et donc je reviens un petit peu. J'ai un peu fait une digression, mais je reviens un petit peu au journal. Donc voilà, France Inter qui au journal annonce que les quatre accusés se sont excusés. Qui quelque part, est une manière de dire, ils reconnaissent les faits de ce pourquoi ils sont accusés, ce qui n'était absolument pas le cas. On s'est défendu, on reconnaît certaines choses, mais on ne reconnaît pas l'accusation sur personne dépositaire de l'ordre public. Enfin bref, des ITT qui sont modifiés dans le Dauphiné, le journal local, ITT, hein, interruption temporaire de travail, qui et donc les deux personnes ont eu 2 et 3 jours d'ITT, et dans le journal local, la Voix du Nord locale, on va dire, eh bien, ils annoncent qu'ils ont eu plus de 7 jours d'ITT, ce qui est faux. Des exemples comme ça, enfin, du coup, on a vécu de près, et moi, ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est vrai qu'avec mon travail de vidéaste et de reporter, je m'intéresse aussi à ça, au traitement médiatique, un petit peu, qui est fait des mouvements sociaux, et là, j'ai bien vu la machine qui s'est mise en route pour relayer un petit peu pour moi, la stratégie de l'État de faire peur et de discréditer un peu toutes ces personnes qui sont arrêtées ou qui ont affaire à la police, comme on l'a vu avec le gendarme à Toulon, où on sort que la personne qui l'a frappé aurait un tesson de bouteille dans sa main, aurait été condamnée pour viol dans le passé. Enfin, voilà, toutes des choses qui sont, toutes des petites stratégies comme ça qui sont mises en place pour discréditer les manifestants et les personnes qui ouvrent un peu leur bouche et qui ne se laissent pas faire et qui donc clairement voilà, il y a une stratégie. Après pour moi cette stratégie moi j'ai suivi différents mouvements par le passé, notamment par exemple quand il y a eu la mort de Rémi Fraisse sur la ZAD du Testé, où il y avait déjà une grosse répression. Pendant le mouvement de la loi travail, il y avait une grosse répression, mais la stratégie de l'État de mettre de diviser en disant d'un côté il y a les gentils manifestants et de l'autre côté les mauvais casseurs. Autant elle a pu fonctionner, je pense, mais autant là, de par les réactions que et les témoignages qui peuvent affluer pour nous quatre, on se rend bien compte qu'il y a toute une partie de la population qui se rend compte de tout ça, qui se rend compte qu'on les manipule, qu'on essaie de les manipuler en tout cas, et qui se remettent en question... cet état de droit qu'on nous vend à toutes les sauces, avec soi-disant une justice impartiale, avec soi-disant une police qui serait là pour protéger les citoyens, qui remettent en question ça. Donc ça, c'est... Bon, nous, on en est victimes, mais quelque part, de se rendre compte de tout ce qui se passe et de toutes ces réactions, on se dit que quand même, c'est intéressant qu'il y ait cette prise de conscience de ce qui se joue en ce moment.
Dernière question, Stéphane Trouille, est-ce que vous participez encore à des manifestations, des actions des Gilets jaunes, et comment vous voyez un petit peu la suite de ce mouvement, vous ?
Alors, suite au procès, etc., nous, il y a un collectif qui s'est monté, donc par exemple, il y a eu un festival de soutien là, qui est organisé non seulement pour récolter des sous, parce que c'est vrai, quand on est dans une procédure judiciaire, il y a des frais, mais aussi pour faire de l'information. Il y a eu des débats, il y a eu des projections de films. Enfin, on est vraiment dans cette démarche-là d'essayer d'amener de la matière pour un questionnement et du débat. Donc, il y a un collectif qui s'est monté et qui a pour objectif, d'informer, d'organiser des rencontres, etc. Donc moi je m'investis un petit peu là-dedans là. Et puis bien sûr, moi dans ce mouvement, par exemple ce week-end il y a l'assemblée des assemblées à Commercy, qui est un village de Meuse, qui a fait un peu parler de lui puisqu'il y a des gilets jaunes qui ont lancé un appel à ce qu'il y ait des assemblées qui se montent un peu partout. C'est une première vidéo, une deuxième vidéo pour lancer un appel à une assemblée des assemblées pour que les différentes assemblées qui ont lieu dans tout le pays puissent à un moment converger, se rencontrer et puis envisager la suite. Donc bah oui, moi je suis impliqué là-dedans et puis non seulement en tant que gilet jaune, mais là aussi pour avec ma caméra documenter ça et puis faire qu'il y ait un maximum de personnes qui soient au courant de tout ce qui se passe en ce moment et il s'en passe des choses à droite à gauche et c'est hyper important je pense d'informer et en dehors des médias mainstream qui nous servent toujours la même sauce et qui en ce moment vire aussi de par les éditorialistes en place etc un discours vraiment qui est complètement ils se lâchent parce que ils font aussi partie de l'ordre établi et que je pense qu'ils ont aussi ils se rendent compte que ce mouvement il remet en cause aussi ça cette presse aux ordres cette presse dirigée par des milliardaires hein, puisque 90% des médias en gros en France sont détenus par 8-9 milliardaires enfin je veux dire c'est pour moi une grosse question à se poser et comment peut-on parler de démocratie dans un pays où les médias sont détenus par les personnes qui ont le pouvoir économique c'est pas possible donc voilà et ce mouvement ben moi je encore une fois il est prometteur il est en tout cas il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui agissent, qui reprennent leur vie en main, et c'est magnifique. C'est magnifique de voir qu'il y a tout ça qui se passe. Il y en a besoin, et c'est profond. On l'a bien vu là, avec, puisqu'il y a eu un petit moment de creux au moment des vacances, mais là, on voit bien que de partout, ça repart de plus belle. Bien sûr, on ne sait pas ce que ça va donner. Bien malin qui pourrait dire dans 6 mois où on en sera, mais en tout cas je pense qu'il y a ne serait-ce que par le processus qui est en place, ne serait-ce que par les rencontres, ne serait-ce que par toutes ces gens qui se politisent dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qui s'intéressent un petit peu à l'organisation de notre vie commune et qui sortent de chez eux, qui sortent des écrans, qui se connaissent, qui apprennent à se connaître, qui font des actions ensemble, qui chantent ensemble, qui enfin voilà il y a tout un tas de choses qui sont pas forcément visibles, mais qui là on se passe et qui pour moi sont des choses qui sont hyper positives et qui auront des répercussions pour la suite. Après voilà, encore une fois on ne sait pas où on va, on voit bien aussi, hein, faut pas se cacher, en face il y a une répression féroce, une tentative d'invisibilisation de tout ce qui se passe. Mais je pense que c'est il y a vraiment quelque chose de profond qui se joue en ce moment et je pense pas qu'ils réussiront à étouffer ce mouvement de la manière dont ils sont en train de le faire.